Ce balado est une fiction qui repose sur des faits véridiques et des personnages qui ont réellement existé.
Open the door! In the name of His Majesty the King, open!
Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu?
Ouvrez! Sinon, je défonce la porte. David McLean?
Depuis la défaite de Montcalm
ou la victoire de Wolfe
en 1763, tout a changé dans la colonie. La langue des dirigeants, le type de gouvernance, incluant les lois et le système de justice, même le territoire. Pour comprendre l'histoire d'un territoire, il faut remonter le temps avant la conquête par les deux peuples fondateurs.
Ou peuples colonisateurs. Nous avons donc rencontré Mme Suzy Obomsawin, directrice du département des consultations territoriales de la Nation Abénakis.
Bonjour, Mme Obomsawin. Merci de nous recevoir dans vos bureaux.
Je suis vraiment honorée de vous rencontrer pour pouvoir discuter davantage de l'occupation et l'utilisation traditionnelle du territoire Abénaki, en fait, qu'on nomme le Ndakina. Le canton de Chipton fait partie du territoire ancestral de la nation abénakise. Quand on essaie de définir davantage quelle est la superficie du Ndakina, on réfère toujours entre les marqueurs géographiques qui est la rivière Richelieu à l'ouest, au nord le fleuve Saint-Laurent, puis à l'est la rivière Etchemin, aux environs de la rivière Etchemin. La frontière sud est aux environs de la ville de Boston.
Est-ce que le canton de Chipton était un lieu habité ou utilisé par la nation abénakise?
Le canton de Chipton et ses environs étaient pour les Abénakis un lieu notamment pour la pêche. Il faut comprendre que les environs du canton de Chipton, notamment avec la rivière Nicolet, la rivière Saint-François, c'était des corridors de déplacement principaux pour la nation abénakise qui connectaient le territoire ancestral du sud au nord. Et donc, à travers ces différents corridors de déplacement-là, il y a eu de l'occupation en continu, même avant la colonisation. C'est important de rappeler que, oui, il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits, beaucoup de choses qui ont été dites, mais notamment dans la tradition orale et puis dans ce qu'on retrouve dans les vestiges archéologiques, il y avait de la présence autochtone bien avant l'arrivée des colons européens.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, la région du canton de Chipton est encore utilisée par les Abénakis à des fins traditionnelles. C'est sûr que ça va bien au-delà, là, l'utilisation, l'occupation traditionnelle du territoire. Il y a des gens, même de la nation, qui résident dans les environs et qui continuent d'avoir des liens là, avec la nation, notamment les deux communautés abénakises d'Odanak et de Wolinak.
En 1792, ce vaste territoire baptisé Buckinghamshire fut divisé en 92 cantons. Ces terres étaient réservées essentiellement aux Américains loyalistes, mais plusieurs cantons ont servi de récompense à quelques citoyens pour services rendus, dont le canton de Chipton.
Nous sommes à Montréal au printemps de 1794. Une nouvelle manifestation se déroule sur la rue Notre-Dame devant la résidence de Guy Carleton, dit Lord Dorchester, gouverneur général du Bas-Canada.
Citoyens, vous en avez assez de payer pour l'entretien des chemins?
Oui!
Vous voulez vous engager dans la milice britannique?
Non!
Alors, unissons-nous derrière le drapeau bleu, blanc, rouge. Luttons contre ces lois imposées par les Britanniques. Vive la République du Bas-Canada!
Vive la République du Bas-Canada!
La mère patrie ne nous a pas laissé tomber. Ce sont les Anglais qui ont volé la colonie à la France.
Au nom de Sa Majesté George III, vous êtes en état d'arrestation pour incitation à la violence.
La violence, c'est l'armée britannique qui la provoque. Dehors l'Angleterre!
Non à l'Angleterre! Vive
Tous ceux qui refusent de partir seront arrêtés sur le champ et seront accusés de conspiration contre Sa Majesté.
Vous pouvez nous accuser de ce que vous voulez. Un jour, vous serez confrontés à une force plus grande que vous. Vous avez les armes? Nous avons le nombre. Et nous reviendrons.
Ouais! Ouais!
Compatriotes, nous nous reverrons.
Arrêtez-le!
La semaine prochaine et les autres semaines s'il le faut, nous nous battrons pour la victoire.
Emmenez-le!
Vive le Bas-Canada! Vive la France!
Vive la France!
Deux ans plus tard, les revendications des citoyens et les manifestations n'ont pas cessé. Le nouveau gouverneur général du Bas-Canada, Robert Prescott, en a assez. Pour lui, il n'y a aucun doute, les soulèvements des Canadiens français sont l'œuvre d'agitateurs étrangers. Il convoque alors un comité d'urgence à la sécurité nationale.
Messieurs, l'heure est grave. Il faut mettre un terme à ces manifestations. Nous avons été assez patients avec ces Canadiens français. Les responsables de ce désordre sont des espions venus de France. La preuve, un soldat a trouvé ces pamphlets qui soutient la République française. Nous allons mettre sur pied une milice secrète. Nos hommes se mêleront aux Canadiens français pour identifier les têtes fortes. Mettons des affiches partout. Récompense pour chaque arrestation des patriotes. Vous verrez, tout un prix, même la tête d'un rebelle.
Suite au plan de Prescott, des dizaines de citoyennes d'origine française sont arrêtées sans qu'aucune accusation ne soit portée contre eux. Ils sont emprisonnés, questionnés, puis tout simplement expulsés du pays, la plupart vers les États-Unis. Une rumeur circulait qu'un certain Jacob Felt était entré au Bas-Canada comme vendeur de chevaux, mais qu'il était bien plus intéressé à connaître les sentiments des Canadiens français envers les Anglais que par les chevaux. On le soupçonne même d'être un agent espion français.
Montréal est une ville prospère dans la période qui a suivi l'indépendance des États-Unis. Elmer Cushing, un jeune Américain ambitieux à la recherche d'opportunités d'affaires, s'est établi à Montréal en 1792. Il achète une petite auberge qui devient vite très populaire. Malheureusement, deux ans plus tard, elle fut détruite par un incendie. Puisqu'il avait eu un succès commercial, il réussit à emprunter auprès des Gentlemen of the City l'argent nécessaire pour la construction d'une plus grande auberge, l'American Coffee House. Par contre, depuis l'ouverture, les affaires sont au ralenti et ne couvrent pas les frais. Les créanciers lui font confiance pour le moment. Le 5 novembre 1796, Elmer Cushing reçoit à l'American Coffee House la visite d'un certain David McLean.
Bonjour, monsieur. Comment vont les affaires?
Ça va, ça va. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Un thé? Café?
Un café? Rien de mieux qu'un bon café de l'American Coffee House, n'est-ce pas, Elmer?
Excusez-moi, on se connaît?
Providence, Rhode Island. Commerce de bois pour la construction.
Providence. David. David McLean. Mais qu'est-ce que tu fais à Montréal?
Tu veux vraiment le savoir?
Bien sûr. Alors, mes affaires ont l'air à bien marcher là-bas? Toujours dans le commerce du bois?
Pas vraiment, non. Mais avant de te dire ce que je suis venu faire au Canada, tu dois me jurer que tout ce que je vais te dire va rester entre nous. Avec les événements qui se passent par ici et la chasse aux patriotes, je dois me protéger. jure-moi, sur la tête de... As-tu des enfants?
Oui, deux. Un garçon et une fille.
Félicitations. Alors jure-moi, sur la tête de tes enfants, que tu répéteras à personne ce que je vais te raconter. Tu comprends, Elmer? À personne!
Oh my God, tu n'es pas devenu curé, toi.
Je suis pas devenu bandit non plus. Mais il faut que tu me jures de garder le silence.
Ok, ok, je te jure. Je vais garder le secret. Mais je ne veux pas mettre ma vie en danger.
Je veux tuer personne. Mais je veux pas me faire tuer non plus.
Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a la contrebande.
J'aimerais mieux qu'on trouve une pièce plus tranquille.
Viens, on va aller en haut.